Bonjour le monde aujourd'hui, Eric Manilakiza avec vous sur VOA Afrique depuis Washington DC. Bienvenue dans cette édition du mercredi 17 avril 2024. Voici d'abord les principaux titres. Le Niger va livrer du gazoil au Mali pour améliorer la fourniture d'électricité. Reprise des pourparlers soudanais dans les 3 semaines. Selon Washington, le festival de Afrobeat International attire les artistes du monde entier à Ouagadougou.
Le festival Afrobeat a décidé de faire en sorte que cette plateforme qui est née il y a 12 ans devienne une plateforme d'opportunité, une plateforme de toutes les possibilités de réseautage.
L'émissaire de l'ONU en Libye jette l'éponge, ne voyant aucun espoir de solution politique. La Zambie demande plus de 900 millions de dollars pour faire face à la pire sécheresse de son histoire. Ici aux États-Unis, la procédure de destitution d'un ministre de Biden arrive au Sénat. Ne manque pas notre page sport ainsi que la Minitech. Pour l'instant, le journal. Le Niger s'apprête à livrer 150 millions de litres de gazoil au Mali. C'est ce qu'a annoncé mardi la présidence malienne. Ce gazoil servira à alimenter les centrales électriques du Mali, pays en proie à des coupures d'électricité récurrentes. Mohamedou Oumfa.
Le chef de la junte malienne, le colonel Assimi Goïta, a reçu mardi le ministre du pétrole nigérien, Mahamad Mustapha Barké, afin de finaliser un accord de partenariat visant la vente de 150 millions de litres de gasoil au Mali, a indiqué la présidence malienne dans un communiqué. Ces carburants seront destinés à la société Énergie du Mali pour alimenter les différentes centrales électriques du pays, a précisé M. Barké, cité dans le communiqué. Lourdement endettée, la Société d'énergie nationale du Mali n'arrive plus à assurer la couverture en électricité de la capitale et d'autres localités du pays. La dégradation de la fourniture d'électricité suscite une large exaspération parmi près de 11 millions de Maliens qui ont accès à l'électricité, soit la moitié de la population de ce pays. En février, le Niger avait annoncé la signature d'un protocole d'accord sur la fourniture de gasoil au Burkina Faso, au Mali et au Tchad. Les 3 premiers pays se sont réunis au sein de l'Alliance des États du Sahel.
Dans un discours télévisé, le président de la Zambie, Hakainde Hichilema, a lancé hier un appel désespéré à l'aide internationale de plus de 900 millions de dollars pour faire face à la pire sécheresse que le pays ait jamais connue. Avec près de la moitié de la population touchée par les conséquences dévastatrices de cette catastrophe naturelle, le besoin d'une assistance immédiate est vital. Alexandrine Rolognon.
La sécheresse provoquée par le phénomène climatique El Niño a frappé durement le pays, entraînant des précipitations extrêmement faibles. Le secteur agricole est dévasté, récoltes et pâturages étant affectés. Plus de 6 millions de personnes sont désormais confrontées à une situation d'urgence, nécessitant une aide humanitaire urgente. Malgré la déclaration de la sécheresse en tant que catastrophe naturelle en février, la Zambie ne dispose que d'une fraction des fonds nécessaires pour faire face à cette crise. Sur les 940 millions de dollars recherchés, seuls 51 millions ont été mobilisés jusqu'à présent. Dans son appel à la communauté internationale, aux partenaires nationaux, au secteur privé, aux organisations religieuses et à la société civile, le président Hichilema a souligné l'urgence d'une réponse collective pour sauver des vies et reconstruire les moyens de subsistance des populations touchées par cette catastrophe sans précédent. Le phénomène El Niño, qui a commencé en 2023, provoque des sécheresses catastrophiques en Afrique australe, où le Zimbabwe et le Malawi ont eux aussi demandé de l'aide internationale.
L'ONU a besoin d'au moins 1 milliard de dollars au cours des 3 prochains mois pour maintenir l'aide humanitaire en Éthiopie, frappée par une grave crise alimentaire et où plus de 21 millions de personnes nécessite une assistance. Les fonds disponibles restent largement insuffisants, mais des donateurs se mobilisent. Nani Tetalani.
Nous devons nous mobiliser. La population en Éthiopie a besoin de notre solidarité et de notre soutien, a déclaré le coordinateur humanitaire de l'ONU en Éthiopie, Ramiz Alakbarov, avant une conférence des donateurs ce mardi à Genève, co-organisée par Addis Abeba et Londres. Des millions et des millions de personnes sont confrontées en Éthiopie à une insécurité alimentaire très grave. Sans aide supplémentaire, les conséquences pourraient être très désastreuses, a martelé l'administratrice adjointe de l'Agence américaine pour le développement international, Isobel Coleman. L'ONU estime à 3,24 milliards de dollars les besoins en aide humanitaire de l'Éthiopie pour cette année, notamment pour assister quelques 4 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays. Jusqu'à présent, moins de 5% de ces besoins financiers sont couverts. L'écart reste très large. Nous devons agir avant qu'il ne soit trop tard. A réagi à Genève, Chifero Tekle-Mariam, le chef de la Commission éthiopienne de gestion des risques. Il ajoute que le gouvernement d'Addis Abeba a lui-même engagé 250 millions de dollars pour l'aide alimentaire au cours des prochains mois. Londres a promis donner 117 millions d'euros de fonds, le bloc européen plus de 131 millions d'euros et les États-Unis ont annoncé fournir 154 millions de dollars d'aide supplémentaire.
L'Arabie Saoudite doit accueillir de nouveaux pourparlers pour mettre fin à la guerre au Soudan d'ici les trois prochaines semaines, a indiqué hier mardi le département d'État américain. L'annonce de la reprise de ces pourparlers a été faite à Paris lundi, en marge d'une conférence internationale qui a engrangé plus de 2 milliards d'euros de financement pour le Soudan, ravagé par un an de guerre entre l'armée et les forces paramilitaires. L'Égypte, les Émirats ainsi que l'IGAD, le bloc régional d'Afrique de l'Est et l'Union africaine sont partenaires pour faciliter les négociations, a précisé le porte-parole du département d'État. L'émissaire des Nations Unies pour la Libye, Abdoulaye Bathily, a annoncé hier sa démission. Il soutient que l'ONU ne peut agir avec succès pour soutenir le processus politique. Yacouba Ouedraogo.
J'ai présenté ma démission au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré Abdoulaye Bathily à l'issue d'une réunion du Conseil de sécurité où il a dressé un tableau sombre de la situation en Libye. La mission des Nations Unies en Libye, MANUL, a fait beaucoup d'efforts ces 18 derniers mois sous ma direction, mais ces derniers mois, la situation s'est détériorée, ajoute le diplomate sénégalais, dénonçant le manque de volonté politique et de bonne foi des dirigeants libyens. Monsieur Bathily dit ne pas voir de place pour une solution politique. Il est décourageant de voir des individus en position de pouvoir mettre leurs intérêts personnels au-dessus des besoins de leur pays, affirme Abdoulaye Bathily. La Libye est plongée dans le chaos politique et sécuritaire depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011, suite à une révolte populaire appuyée par l'OTAN. Il avait été nommé en septembre 2022, après des mois de vacances du poste suite à la démission abrupte de son prédécesseur, Jeanne Koubis, en novembre 2021.
Un nouveau type de moustiquaire distribué dans toute l'Afrique subsaharienne a permis d'éviter environ 13 millions de cas de paludisme et près de 25 000 décès en 3 ans, ont annoncé ce mercredi les bailleurs de fonds du projet. Selon les derniers chiffres de l'OMS, 249 millions de cas de paludisme et 608 000 décès ont été enregistrés en 2022. La majeure partie des cas ayant été dénombrés en Afrique. Près d'un demi-million d'enfants dans cette partie du continent africain meurent chaque année de cette maladie causée par un parasite transmis par des moustiques.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le gouvernement haïtien a publié hier mardi un décret nommant les membres d'un conseil de transition appelé à prendre le pouvoir, avançant vers la stabilité, après que le Premier ministre Ariel Henry a laissé un vide politique en annonçant sa démission le mois dernier. Le conseil devrait choisir un dirigeant et un Premier ministre et exercer certains pouvoirs présidentiels par un vote à la majorité. Son mandat court jusqu'en février 2026. Les Républicains à la Chambre américaine des représentants ont officiellement transmis hier mardi au Sénat l'acte d'accusation contre le ministre de Joe Biden chargé de l'immigration Alejandro Mayorkas en amont de son procès devant la Chambre haute du Congrès. En pleine année électorale, l'immigration s'est imposée comme un des sujets phares de la campagne sous l'impulsion du camp conservateur. Les Républicains au Congrès accusent Mayorkas, ministre du président Joe Biden, d'avoir provoqué une crise à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Au terme de débat, les 100 sénateurs voteront sur chaque article. Il faut une majorité de 2/3 pour condamner, auquel cas la destitution est automatiquement et sans appel. Le tribunal de Manhattan est parvenu mardi à choisir 7 des 12 citoyens chargés de juger Donald Trump au procès historique qui percute la campagne de l'ancien président américain pour retourner à la Maison Blanche. Une fois l'audience terminée, le candidat des Républicains à la présidentielle s'est rendu dans la foulée dans une supérette d'Harlem pour faire campagne sur l'un de ses thèmes favoris, l'insécurité, et dénoncer l'immigration. Les États-Unis et leurs alliés prévoient de nouvelles sanctions contre l'Iran à la suite de son attaque sans précédent contre Israël, dans l'espoir de dissuader Israël de recourir à des représailles massives. Washington va viser les programmes de drones et missiles de Téhéran, son corps des gardiens de la Révolution et son ministère de la Défense, a détaillé dans un communiqué Jack Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco, présentée ce matin par Nanit Talani.
Le Niger s'apprête à livrer 150 millions de litres de gazole au Mali pour alimenter les centrales électriques de ce pays en proie à des coupures d'électricité récurrentes, a annoncé mardi la présidence malienne. Le président malien, le colonel Assimi Goïta, a reçu mardi le ministre nigérien du pétrole, Maman Mustapha Barké, afin de finaliser l'accord de partenariat visant à alimenter les différentes centrales électriques du Mali. 40 organisations de la société civile demandent au Nigeria à empêcher Shell de vendre sa filiale onshore dans le sud-est du pays, car selon elles, cela se fera au détriment de l'environnement et des populations locales. Shell ne devrait pas être autorisé à contourner la loi pour échapper à ses responsabilités concernant le nettoyage de la pollution généralisée qu'elle a laissée derrière elle, estiment les organisations. Pour terminer, le constructeur allemand Volkswagen prévoit d'investir 210,67 millions de dollars pour la fabrication d'un nouveau SUV à partir de 2027 dans son usine située en Afrique du Sud. Alors que la plupart des marchés automobiles mondiaux passent aux véhicules électriques, les marchés africains continueront de fabriquer et de vendre des véhicules à moteur à combustion interne à cause de la demande des clients et à la lenteur de l'introduction des véhicules électriques sur ces marchés, estime Volkswagen.
Merci à Nanit pour sa Minute Éco. Nous passons directement à la page d'espoir avec Yacouba Ouédraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Naby Keïta, suspendu par son club.
Oui, le milieu guinéen a été suspendu jusqu'à la fin de la saison par le Werder Bremen pour avoir refusé de se rendre le week-end dernier à Leverkusen, selon un communiqué du club allemand. Le comportement de Naby, pour nous en tant que club, n'est pas acceptable. Avec cette action, il a laissé tomber son équipe dans une situation difficile sportive et personnelle et il s'est placé au-dessus de l'équipe. Nous ne pouvons pas laisser passer cela, a expliqué le directeur sportif du Werder Bremen, Clément Fritz. Selon le Werder Bremen, Naby Keïta a refusé de voyager avec l'équipe vers Leverkusen après avoir appris samedi qu'il ne serait pas titulaire dimanche contre le leader de la Bundesliga et a décidé de rentrer chez lui et rester loin du match finalement perdu 5-0. L'international guinéen de 29 ans a rejoint Bremen à l'été 2023 après un passage à Liverpool de 5 saisons peu convaincant. Blessé lors de la première moitié de saison, retenu avec la Guinée en Coupe d'Afrique des Nations début 2024, Keïta n'a joué que 5 matchs avec le Werder, ou seulement un peu plus de 100 minutes de jeu.
Suite F1 des matchs retour des quarts de finale de la Ligue des Champions ce soir en Europe.
Tout reste ouvert lors du match retour à l'Etihad Stadium entre Manchester City et le Real Madrid. Cette grande affiche a tenu toutes ses promesses la semaine passée à l'aller au Bernabeu, où ce qui constitue probablement les deux meilleures équipes d'Europe se sont neutralisées 3-0. Les Citizens, champions en titre, restent plus que jamais en course pour doubler leur triplé historique de la saison dernière, Premier League, Ligue des Champions et Coupe d'Angleterre. Mais Madrid, fort de ses 14 titres, reste le club le plus expérimenté en Ligue des Champions. Le vainqueur de ce nouveau classique d'Europe portera l'étiquette de favori pour le reste de la compétition. Dans l'autre quart de finale retour, le Bayern reçoit Arsenal à Munich. Le Bayern est rentré de Londres avec un match nul 2-0 et un ballotage favorable donc pour le retour chez lui.
Et puis, hier, Yacouba, le PSG et Dortmund se sont qualifiés pour les demi-finales.
Le Paris Saint-Germain s'est imposé 4-1 à Barcelone après sa défaite 2-3 à l'aller. Paris a profité d'une heure de supériorité numérique après l'exclusion du défenseur barcelonais Ronald Araújo à la 29e minute. En demi-finale, le PSG va affronter Dortmund au terme d'un match complètement fou. Le Borussia s'est qualifié en s'imposant 4-2 contre l'Atlético Madrid pour se hisser donc pour la première fois depuis 2013 dans le dernier carré de la Ligue des Champions.
La page des sports signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manilakidza de retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Le Soudan est déchiré depuis un an par une guerre meurtrière entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide de Mohamed Hamdan Daglo. Pour comprendre les actions entreprises par la communauté internationale, notamment les États-Unis, pour secourir les millions de civils pris au piège des affrontements, VOA Afrique a joint à Johannesburg William Johann Schmonsis, porte-parole de langue française du département d'État et directeur du Centre médiatique régional pour l'Afrique.
Ça fait un an qu'une guerre civile totale s'est éclatée au Soudan. C'est une lutte de pouvoir entre deux généraux qui a tué déjà des milliers de civils, déplacé 8 millions de personnes et mené encore davantage de personnes au bord de la famine. En fait, c'est la plus grande catastrophe humanitaire en cours sur la planète. 25 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire. Bien sûr, il y a des pénuries de produits, de services et de nourriture partout au Soudan. Hier, à Paris, à la conférence internationale humanitaire sur le Soudan, les États-Unis se sont engagés à fournir 100 millions de dollars supplémentaires. C'est une aide alimentaire d'urgence, un soutien nutritionnel et autre forme d'aide vitale. Cette annonce porte le total de l'aide humanitaire américaine à 1 milliard de dollars. Et les États-Unis restent le plus grand donateur en réponse au Soudan et à ses pays voisins. C'est une aide qui sert à fournir des services médicaux, d'assainissement, de l'aide humanitaire et aide aux réfugiés dans les pays voisins suite au conflit qui se déroule au Soudan.
Monsieur Schmonsis, existe-t-il des craintes quant à une escalade de la violence dans la Corne de l'Afrique?
Il y a des craintes d'escalade dans la Corne de l'Afrique. Les États-Unis ont eu de nombreuses discussions avec les pays de la région. Nous sommes préoccupés par l'impact régional et par le fait que la guerre est alimentée par des soutiens extérieurs. Et aussi nos inquiétudes concernant le soutien iranien au SAF. La guerre risque de déstabiliser toute la région. Le conflit fait signe maintenant d'impliquer les tribus et les pays voisins qui ont essayé de rester neutres, qui ont essayé d'aider dans la situation au Soudan.
Alors, comment devrait-on agir contre les acteurs accusés de soutenir les parties belligérantes?
Un certain nombre de pays tentent de faire pression en faveur d'une solution diplomatique. Le processus de Jeddah, par exemple, a réuni un certain nombre de pays autour de la table et l'Arabie Saoudite s'est engagée à accueillir un nouveau cycle de négociations. Les États-Unis sont activement engagés dans ce processus, en particulier un nouvel envoyé spécial pour le Soudan, Tom Perriello, s'est rendu dans la région le mois dernier. Les efforts diplomatiques se sont intensifiés et les États-Unis tenteront d'utiliser tous les leviers dont ils disposent pour construire la volonté politique pour mettre fin à cette guerre. Notre envoyé spécial et l'envoyé spécial des Nations Unies, Ramtane Lamamra, vise à renforcer les efforts à emmener toutes les parties à la table pour des pourparlers de paix formels.
William Johann Schmonsis, porte-parole de langue française du département d'État américain.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Pelumi Nubi a effectué un voyage de Londres à Lagos dans le but de promouvoir une Afrique sûre et sans frontières. Didi Diko.
C'est le moment où Pelumi Nubi est arrivée dans la ville nigériane de Lagos. En janvier, elle s'est embarquée dans un voyage qui a fait d'elle la première femme noire à effectuer un voyage en solitaire de Londres à Lagos.
Je voulais faire quelque chose d'audacieux et de courageux et encourager les gens à sortir de leur zone de confort pour faire quelque chose qui, vous savez, pousse à l'aventure et au voyage. C'est ce qui a donné naissance à un tel voyage. C'est important pour moi de faire cela et d'inspirer toutes les femmes noires, toutes les voyageuses, afin qu'elles puissent, elles aussi, sortir de leur zone de confort.
La créatrice de contenu touristique a traversé 17 pays au volant de sa petite Peugeot.
Je sensibilise la communauté noire au voyage, oui, dans cette voiture.
Son voyage n'a pas été sans obstacles. Elle raconte qu'elle a été confrontée à des difficultés au passage des frontières, notamment une attente de 2 jours pour entrer au Libéria. Elle affirme qu'une Afrique plus accessible, semblable aux frontières ouvertes de l'Europe, encouragerait le commerce intercontinental et le tourisme.
Vous savez, lorsque je traversais l'Europe du Royaume-Uni à la France et l'Espagne, j'avais l'impression de traverser un seul grand pays. Et j'ai l'impression que cela pourrait également être le cas de l'Afrique. La CEDEAO a entamé un processus visant à rendre le système accessible. Mais j'ai l'impression que le système n'est pas encore tout à fait au point et qu'il faut le peaufiner.
Pelumi Nubi explique qu'elle souhaite promouvoir une Afrique sûre et sans frontières et remettre en question les idées reçues sur le continent.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Une vente aux enchères de livres ayant appartenu à l'ancien président sénégalais Léopold Sédar Senghor, prévue ce mardi en France, a été suspendue en raison de négociations avec le Sénégal. Dakar envisage d'acquérir un ensemble de la bibliothèque, selon les organisateurs. La bibliothèque mise aux enchères est constituée de 343 volumes avec chacun la dédicace de leur auteur. Le directeur du patrimoine culturel sénégalais, Omar Badiane, soutient que les nouvelles autorités sénégalaises s'étaient saisies de l'affaire. Yacouba Ouedraogo a joint à Dakar, au Sénégal, Amadou Lamine Sall, poète et écrivain.
Il y a des poètes d'Afrique, des poètes de la diaspora comme Aimé Césaire, il y a des poètes français comme Prévert, il y a des écrivains, il y a des économistes, il y a des sociologues, il y a des philosophes, enfin bref, des gens qui aimaient Senghor et qui lui ont envoyé leurs livres en les dédicaçant. Et c'est cela qui donnait un peu de la valeur pour les écrivains connus. Donc c'est une bibliothèque assez importante, mais peut-être qu'elle n'a pas la valeur dont on parle.
Justement, en quoi c'est si important pour l'État sénégalais de racheter cette bibliothèque?
Le Sénégal a été porté à l'indépendance par Léopold Sédar Senghor. Et Senghor n'est pas un économiste, ce n'est pas un ingénieur, ce n'est pas un scientifique. C'est un poète qui a porté le Sénégal à l'indépendance. Et le Sénégal n'est connu que par sa culture. Et son rayonnement international par la culture. Et non par l'économie, le pétrole ou le gaz. Et c'est ce même poète dont la bibliothèque est en vente qui a créé une république et au-delà d'une république qui a créé une nation. Donc Senghor lui-même est un patrimoine. Sa bibliothèque est un patrimoine. Et nous avons besoin de ce patrimoine dans notre pays comme en Afrique. Le retour du patrimoine africain, vous en faites le suivi peut-être. Nous sommes en train, Emmanuel Macron, le président français, était en train de voir comment rapatrier justement tout ce patrimoine. La vérité, c'est qu'il y a une mafia bien organisée en France qui est en train de piller le patrimoine de Senghor. Et il faut faire face à cette mafia. Il faut la démasquer. Et c'est cette mafia qui met cette bibliothèque en vente. Alors, le Sénégal a pensé que par dignité, mais que par honneur, nous devrions récupérer ce patrimoine de Senghor, ce patrimoine du Sénégal, et le ramener au Sénégal. Voilà pourquoi, Monsieur le Président de la République, a répondu à mon appel, comme à l'appel de tous les Sénégalais, pour demander à notre ambassadeur à Paris d'aller faire annuler cette vente aux enchères à Caen, en France, et d'acheter la bibliothèque et de la ramener au Sénégal. Nous le remercions d'avoir fait ce geste, parce que ce gouvernement vient d'arriver. Ils sont en train de s'organiser. Et je me réjouis que le premier acte fort, acte national, acte patriotique, acte international, c'est d'abord la culture, mais c'est d'abord Senghor.
Vous en parliez tout à l'heure, plusieurs universitaires du Sénégal avaient pressé dans un communiqué le gouvernement de se porter acquéreur des ouvrages afin de préserver et valoriser ce patrimoine-là. Qu'est-ce qu'il faut entendre par préserver et valoriser ce patrimoine?
Préserver et valoriser ce patrimoine, mais c'est mettre ce patrimoine au service de la jeunesse sénégalaise qui ne connaît pas Senghor. La jeunesse africaine ne connaît pas Kourma, ne connaît pas Senghor, ne connaît pas Cheikh Diop et d'autres encore. Donc, il faut commencer par l'école. Si nous ne commençons par l'école, nous allons échouer. Il faut que la nouvelle génération et que les générations à venir découvrent le patrimoine sénégalais, le patrimoine africain. Et cette bibliothèque est un patrimoine. Donc, nous allons la mettre à la disposition des lycées et collèges, à des universitaires, des professeurs, mais des étudiants, pour qu'ils découvrent qui est Senghor. Donc c'est capital. Je crois que nous n'allons jamais nous développer si nous ne commençons pas par la culture. C'est important.
Amadou Lamine Sall, poète et écrivain sénégalais.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Du 18 au 21 avril, Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, accueille de nombreux artistes d'Afrique et du monde. Ils arrivent au pays des hommes intègres pour prendre part à la 12e édition du Festival Afrobeat International. Pour en savoir davantage, Georges et Léonard Sagnot s'est entretenu via Skype avec Jean-Marie Nabihé Zopito, directeur du festival.
Ce sont des artistes, des jeunes talents, des artistes confirmés, mais aussi des professionnels du secteur des industries culturelles qui participent à cette 12e édition du Festival Afrobeat International. Et donc, c'est une grosse fierté pour l'équipe du Festival Afrobeat que d'accueillir l'ensemble de ces délégations et d'offrir surtout pas mal d'opportunités à l'ensemble de ces acteurs. Vous savez qu'aujourd'hui, la question de la mobilité, de l'exportation et de l'accès au marché, surtout des jeunes talents, est une question qui se pose avec acuité. Et le Festival Afrobeat a décidé de faire en sorte que cette plateforme qui est née il y a 12 ans devienne une plateforme d'opportunité, une plateforme de toutes les possibilités de réseautage à travers le B2B, à travers le masterclass, à travers les séances de rencontres, mais aussi à travers des live performances afin que ces artistes-là puissent avoir accès à un réseau important d'acteurs culturels influents venus donc de l'ensemble du continent et surtout d'Europe. Des programmateurs qui viennent à la chasse d'artistes talentueux pour programmation, effectivement, dans les prochaines éditions.
Est-ce qu'à l'heure où nous sommes, on peut déjà dire que quelques artistes de renommée internationale ont commencé à poser leurs valises à Ouagadougou?
Tout à fait, nous avons reçu la délégation congolaise, représentée par un artiste extraordinaire qui s'appelle Kratos Beat, qui fait une fusion parfaite du beatboxing et de la musique tradie moderne africaine, qui mélange des instruments comme la kora, la guitare, au beatboxing. Et c'est un artiste qui est déjà en répétition avec ses musiciens dans les différentes salles de Ouagadougou. Demain, nous allons accueillir la délégation guinéenne, représentée par Kune Rima, qui a été finaliste d'un grand concours mondial d'artistes talentueux du continent africain. Donc, elle sera là avec son équipe. Et nous allons accueillir également Axel Benji, qui vient de la République centrafricaine, qui arrive demain, ainsi que K2 de la nouvelle génération de musique urbaine tchadienne, qui va fouler le sol de Ouagadougou demain. Et les arrivées continueront. Jaël Bonnet de la Côte d'Ivoire, Kamé Sidibé du Mali, ces stars burkinabé qui sont à l'affiche pour cette 12e édition. Effectivement, nous commençons à accueillir les délégations étrangères, les délégations des pays frères qui foulent le sol du Burkina Faso. Et c'est un grand plaisir pour nous parce que c'est comme ça que nous nous sentons bien. C'est comme ça que nous nous sentons heureux.
Jean-Marie Nabi, dit Zopito, directeur du Festival Afrobeat International de Ouagadougou. Le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Eric Manilakiza à ce micro. Firmin Koyaweda a assuré la production et la réalisation. Nachwan Kale à la console. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur votre site internet voafrique.com et vos sites, vos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes et à la prochaine.